Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes, et recevez les salutations de l'Église de la capitale à Québec. Donc, plusieurs nouveaux visages, des gens que je ne connais pas ce matin, cet après-midi, ça c'est l'habitude du culte du matin, mais c'était un plaisir de rencontrer quelques personnes. On s'était connus par Zoom l'année dernière, mais là on a pu se rencontrer en présentiel, pour employer les termes les plus modernes depuis quelques temps. Et quelle joie de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur cet après-midi. Et pour ce faire, eh bien, je vous invite à tourner au psaume 133. Un psaume qui nous parle de l'unité du peuple de Dieu. C'est un cantique des degrés, donc c'est un des cantiques qui était chanté lorsque les Israélites s'approchaient de la maison du Seigneur lors des grandes fêtes. Donc on entonnait plusieurs psaumes à l'approche donc du temple du Seigneur, et le psaume 133 en fait partie. Et certainement que l'idée derrière cela était notamment lorsqu'on voyait les gens de toutes les tribus d'Israël, n'est-ce pas, qui s'avançaient donc vers la maison du Seigneur. Donc, qui se dirigeait vers la présence même de leur Dieu, n'est-ce pas? Et cela, bien sûr, parlait de cette grande unité que Dieu a toujours désirée. Premièrement pour l'humanité, mais en raison de la chute, le Seigneur, dans sa grâce, s'est choisi un peuple, et ce peuple, il l'a voulu uni. Et c'est ce qui va arriver dans l'éternité future. Et c'est déjà une réalité. Il y a déjà une véritable unité, n'est-ce pas, réelle de l'Église de Dieu, qui est composée donc de tous ceux que le Seigneur a appelés. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Et là, on voit bien sûr, on peut réaliser lorsqu'on regarde un peu le visage de l'Église, non seulement celle d'aujourd'hui, mais des siècles passés, on voit à quel point le péché est une réalité encore présente dans nos vies. Mais la grâce de Dieu, peut faire la différence. Et c'est ma prière que le Seigneur puisse continuer justement à agir dans nos cœurs à cet effet. Psaume 133, donc, cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Puissions-nous retenir donc ces quelques mots. Où est-ce que Dieu envoie la bénédiction? Là où des frères demeurent ensemble. On peut ajouter bien sûr des sœurs. Des frères et des sœurs demeurent ensemble. Demeurer ici n'est pas dans le sens nécessairement de rester au même endroit, mais c'est l'idée d'une unité de cœur, de pensée dans la vérité de Dieu, dans l'amour de Dieu. Donc, le premier point aujourd'hui, c'est que David nous fait l'éloge de l'unité du peuple de Dieu. Verset 1, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et le petit mot en hébreu, « voici », là, il sert à attirer notre attention, frères et sœurs, il sert à attirer notre attention de façon très particulière sur tout ce qui suit. Il sert à nous interpeller sur l'importance, donc, que doit revêtir pour nous, nous qui craignons le Seigneur, le sujet qui est traité par David ici. À quel point on devrait considérer comme digne d'admiration et digne d'être imité une telle chose. Voici, à quel point nous devrions y aspirer et désirer une telle unité au sein du peuple de Dieu. Bien sûr, il faut définir ce qu'est l'unité, je vais en parler un peu plus tard, mais s'il y a un drame réel qu'on peut voir tout au long de l'histoire de l'Église, même au sein de l'Église fidèle, ce sont les divisions, les sectes et les schismes. Il faut qu'il y en ait. Il y a des bonnes raisons parfois pour les divisions au sein de ce qui porte le nom d'Église. Mais combien souvent on a trouvé toutes les excuses possibles pour se diviser, pour se chicaner, pour s'excommunier les uns les autres, au nom soi-disant de la vérité, mais en passant complètement à côté de ce que le Seigneur désirait pour nous. David a pu écrire ce psaume au moment où la paix et l'harmonie eurent été rétablies en Israël après un temps de confusion et de dissension. On sait que la guerre civile avait prévalu au sein de la nation élue pendant les 7 ans où ce dernier avait régné à Hébron. On sait que quand David est monté sur le trône, premièrement, il est monté sur le trône, il était dans la ville d'Hébron, et donc seulement Juda l'a véritablement suivi. Les autres tribus d'Israël ont continué, donc ont fait sécession, et il y a eu une guerre civile qui a duré 7 ans. Et on sait que plus tard, David a dû faire face aussi à d'autres révoltes, à des conjurations, notamment celle qui venait de son fils Absalom. On peut penser aussi à l'époque des juges. Hein, si vous connaissez un peu votre Bible, l'époque des juges, caractérisée par le manque de cohésion au sein de la nation, au sein des tribus d'Israël, et les nombreux conflits, surtout lorsqu'on lit la fin du livre des juges, on s'aperçoit qu'il y avait des conflits de toutes sortes. Il y a eu des commotions, il y avait des guerres, des querelles intestines au sein du peuple de Dieu. Il y a eu des commotions civiles, et cela a ouvert de larges plaies, bien sûr. Ça a nourri de la rancœur, de la haine, même au niveau des tribus, n'est-ce pas, hein? Et on voit la même chose aujourd'hui au sein des peuples, des nations, des ethnies, hein? Même à la question de la langue, on voit ça au Québec, hein, depuis des années, il y a des espèces de blessures, de rancœur, etc., etc. C'est la même chose qui s'était passée au sein du peuple de Dieu pendant des siècles. Hein, des cicatrices étaient restées. Hein, ce que fait David ici, c'est justement, c'est louer l'unité du peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu est capable de passer par-dessus toutes ces choses au nom de la vérité, au nom du véritable Dieu et pour la gloire du véritable Dieu. Et tout cela, bien sûr, a menacé plus d'une fois de ruine le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus de nous dire qu'une maison divisée est une maison qui va courir vers sa ruine. Un royaume divisé, c'est un royaume qui court vers sa ruine, sa disparition. Quand l'Église est divisée, non pas en raison de la vérité, elle est menacée de s'écrouler. Et du moins, on peut être certain qu'elle ne prospérera pas selon le plan de Dieu. Quand j'emploie le terme prospérer ici, je ne parle pas de façon matérielle premièrement, mais je parle vraiment de façon spirituelle. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble, qu'il est agréable, qu'il est doux. Dans l'hébreu, le terme traduit ici par « eau » est employé 2 fois pour souligner combien est excellente aux yeux de Dieu et des hommes la condition décrite par David, celle de l'unité du peuple de Dieu. « Oh, qu'il est agréable! Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble! » Et le terme « agréable » peut être traduit par « bon, précieux, au plus haut point ». Cela est doux, plaisant, délicieux, beau, premièrement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes dont le cœur était travaillé par Dieu et qui apprennent justement à discerner ce qui est réellement plaisant à ce dernier. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà ce qui fait toute la joie de notre Dieu. Hein? Voilà ce qui appelle la plus haute recommandation, ce qui est digne de la plus haute mention, à savoir des frères et des sœurs qui demeurent ensemble. L'unité du peuple de Dieu, elle est tellement précieuse. Christ est mort pour son Église, non pas pour ses Églises. Christ n'a pas 2 peuples, Christ n'a pas 3 peuples, Christ n'a pas 50 peuples. Le Seigneur est mort pour son peuple. Et dans l'éternité, ce peuple sera un. Le peuple des saints, le peuple des élus. Et si à l'époque des ombres, sous l'ancienne alliance imparfaite, une telle unité est si estimée, comment est-ce que nous devons nous-mêmes l'estimer, nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, à l'époque de la réalité? Vous savez que l'Ancienne Alliance, c'est l'époque des ombres, de l'ABC de la foi. Et Les anciennes ordonnances dites charnelles ont disparu, hein, les sacrifices d'animaux, la prêtrise, hein, le fait qu'on, toutes les ablutions, etc., même les fêtes solennelles, hein, qui devaient être observées trois fois l'an, etc., toutes ces choses ont été abolies, non pas parce que l'Église a reculé dans sa piété, dans son sens de la sainteté, mais c'est parce qu'au contraire, nous sommes entrés pleinement dans la réalité de ce que ces choses-là annonçaient et symbolisaient. Et donc, si l'unité est si louée par David sous l'Ancienne Alliance, elle devrait faire l'objet de notre intérêt premier, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. L'apôtre Paul a une église. Alors, l'apôtre s'adresse d'ailleurs à une église qui vivait des divisions. Hein, sur toutes sortes de points, notamment des divisions au niveau de la doctrine. On dit de la doctrine, mais c'était. Ils imitaient, hein, c'était dans leur culture, hein, c'était la culture grecque, mais aussi la culture corinthienne. Hein, ils aimaient former des espèces d'écoles de philosophes et ils prenaient les prédicateurs pour des espèces de philosophes. Hein, ils imitaient ce qu'ils avaient vécu par le passé avant leur conversion. Et là, l'un s'attachait à Paul. Et là, Paul, lui, il a la doctrine. Paul, il a la manière. Paul, il a la vision d'église. Un autre disait, non, Pierre, son leadership. Un autre, c'était Apollos, le verbe d'Apollos. Hein, sa rhétorique, sa prédication derrière laquelle on ressent toute l'influence de la philosophie grecque, etc., etc., et les plus spirituels de dire, nous sommes de Christ. Et l'apôtre Paul de dire, mais nous sommes juste des serviteurs du Seigneur, justement. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur ou moins bon en tant que tel. Nous avons tous, donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Sans exception, tous ceux qui appartiennent réellement au Sauveur, si je me suis vraiment converti au Seigneur Jésus-Christ, bien sûr que j'ai été baptisé dans un seul esprit, pour former un seul corps. Bien sûr qu'on parle premièrement du corps universel de l'Église, mais ce corps universel de l'Église, il se concrétise dans le temps présent, dans les assemblées locales. On ne peut pas revenir en arrière. Même l'Église fidèle est très, très divisée. Mais on peut certainement prier le Seigneur que là où il nous a placés, là où nous pensons être au bon endroit, que nous puissions expérimenter cette grâce, cette vérité, ce qu'il a déjà accompli, parce que nous sommes déjà un en Christ Jésus, il faut le vivre maintenant. Et comme je disais, malheureusement, dans son ensemble, l'Église peine à préserver cette unité. Une des raisons de cela, bien sûr, c'est le manque de maturité spirituelle. C'est le fait que les passions du vieil homme nous agitent encore, même lorsqu'elles se revêtent du vêtement de la vertu chrétienne. Et comme sur beaucoup d'autres fronts, nous n'avons pas réussi à chasser les Cananéens de la terre promise. Israël devait chasser les Cananéens. Elle devait les exterminer. C'est dur à dire, hein? Mais c'est la vérité pour pouvoir s'établir à leur place. Et c'était une image du vieil homme qui doit être mis à mort pour laisser place à la nouvelle création en Christ. Malheureusement, comme Israël, même pour chacun d'entre nous, hein, notre frère le disait bien dans sa prière ce matin, prière de repentance, il est vrai que nous n'atteindrons jamais la perfection ici-bas. Mais nous devons tendre, nous devons désirer, bien sûr, nous devons aspirer. Et d'ailleurs, plus nous voyons ce qu'est la volonté de Dieu pour nous, plus nous réalisons à quel point nous sommes encore très, très loin de l'avoir accompli, plus cela nous amène à l'humilité, à l'humiliation, à regarder à Christ et à aspirer que Dieu le fasse en nous. 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 10 à 13. L'apôtre, alors j'ai déjà fait référence à cela tout à l'heure, mais « Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et les plus spirituels, moi de Christ. Christ est-il divisé? » Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Bien sûr qu'il est vrai que... Il faut toujours remettre un texte dans son contexte. Bien sûr qu'il y a, même dans aujourd'hui même, hein, des gens qui se prétendent prédicateurs et qui ne doivent pas être écoutés. On comprend qu'il y a des raisons pour lesquelles des chrétiens devraient parfois se détourner de tel ou tel homme en tant que tel. Mais ici, on parle de prédicateurs agréés par Dieu lui-même. D'ailleurs, on parle de Paul et de Pierre, des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, Apollos, hein, etc. Et donc, on voit que malgré le fait qu'on était devant donc des prédicateurs orthodoxes, remplis de la grâce de Dieu, qui prêchaient fidèlement le Saint-Évangile, eh bien, les Corinthiens trouvaient moyen de créer entre eux des rivalités avec leurs prédicateurs préférés. Faisons très attention, très, très attention. Et le seul moyen de passer par-dessus cela, bien sûr, c'est que nos yeux soient fixés premièrement sur la personne de Christ. Jacques nous met en garde et nous dit « D'où viennent les luttes ?» Là, on parle encore une fois d'une réalité au sein d'une église locale, ou peut-être même de plusieurs églises locales. Le contexte de l'épître de Jacques, c'est probablement à la suite donc de la persécution qu'il y a eu après le martyre d'Étienne. On nous a dit que les chrétiens à Jérusalem ont presque tous été dispersés. Ils sont partis et bien sûr ont vécu des moments très très difficiles, mais il semble bien que dans leur dispersion, dans leur exil, qu'il y avait au sein de leur propre communauté toutes sortes de tensions et de rivalités. Même certains qui cherchaient à se venger hein, de ceux qui les avaient oppressés, de leurs persécuteurs, l'esprit zélote qui était très présent parmi le peuple juif. Hein, et Jacques, qui a priori, lorsqu'on lit son épître, on peut trouver parfois qu'il semble parler de façon très très dure. Lorsqu'on la lit comme faux, on s'aperçoit que Jacques était imprégné du sermon sur la montagne et des béatitudes. D'où viennent les luttes? Écrit-il, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et il ajoute, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que le monde est inimitié contre Dieu? Il s'adressait à des croyants. Et je suis persuadé que plusieurs d'entre eux ne réalisaient pas que leur manière de penser, que ce qu'ils appelaient le zèle, hein, ne l'était point, mais procédait du vieil homme en eux. Et Jacques veut rectifier la situation en leur disant « La sagesse d'en haut est premièrement pure, modérée, pacifique. » La douceur du cœur. On en a tellement besoin, frères et sœurs. La grâce de Dieu, la douceur du cœur au sein de son Église. Et en fait, je pense que si on regarde l'Église dans son ensemble, et je m'incorpore là-dedans, nous serions dus pour prendre plus souvent qu'autrement le sang de nous amener, de nous humilier devant notre Dieu, hein, et parce que nous offrons un spectacle extrêmement désolant au reste du monde. Faisons très attention, même lorsque nous parlons de d'autres églises, de d'autres frères qui sont différents. On n'a pas à cacher, bien sûr, certains égarements. Il y a des choses qui doivent être dites. Mais faisons très attention à la manière dont nous parlons, donc, même de d'autres frères. Surtout devant les gens de l'extérieur. Nous sommes là pour témoigner de la personne du Christ. Et puissions-nous, justement, ne pas offrir aux gens du dehors une caricature de l'Église? Une église au visage balafré, ce qui défigure le Fils de Dieu. Nous rendons témoignage au Fils de Dieu de son amour, à quel point il s'est sacrifié pour nous, et nous nous divisons entre nous pour des riens. Donc, premier point, l'éloge de l'unité, l'importance de l'unité. Deuxième point, le caractère précieux de l'unité et sa sainteté. Son caractère précieux et sa sainteté. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Alors bien sûr, David fait référence ici à l'huile qui était versé donc sur le grand prêtre, hein, le grand sacrificateur en Israël. Et donc, lorsqu'il était consacré, on versait sur lui donc une huile sainte. Et elle est qualifiée ici de précieuse. C'est le même mot qui a été traduit par agréable au verset 1 de notre psaume. Hein. Et cette huile était réservée, hein, elle avait été... C'est Dieu lui-même qui en avait donné la recette. Et c'était quelque chose d'extrêmement saint aux yeux de Dieu. C'était une ordonnance divine, mise à part pour un usage saint. Alors, tournez avec moi dans le livre d'Exode, au chapitre 30, pour lire les versets 22 à 33. Exode, chapitre 30, les versets 22 à 33. Tout l'Ancien Testament nous parle de Christ. Sous forme symbolique, il est encore, à bien des égards, caché. Et pourtant, il brille déjà. Hein? Exode, chapitre 3, versets 22 à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 sicles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 sicles de cinnamome aromatique, 250 sicles de roseau aromatique, 500 sicles de casse, selon le sicle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle sera sainte, vous la regarderez comme sainte, et quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. » Donc, cette onction était déversée abondamment, hein, de ce qu'on sait, sur la tête d'Aaron et de ses successeurs au moment de leur entrée en service, de leur ordination. Et lorsqu'elle descendait, hein, sur lui, je rappelle que le grand prêtre portait un diadème sur lequel il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Le grand prêtre, hein, qui bien sûr préfigurait notre Seigneur Jésus-Christ qui a offert le grand sacrifice qui maintenant intercède pour nous. Et lorsqu'elle descendait cette huile-là, eh bien, elle répandait une merveilleuse fragrance, un parfum délicat. Et ça nous parle du Saint-Esprit, bien sûr. L'onction symbolisait le Saint-Esprit que nous avons reçu. Mais nous l'avons reçu parce que le Seigneur Jésus, premièrement, à son baptême, a reçu l'Esprit selon Jean-Baptiste. Il l'a reçu sans mesure. Et en plus, lorsqu'après avoir donné sa vie, être ressuscité d'entre les morts et avoir été élevé à la droite de la majesté divine, il a reçu le Saint-Esprit pour le répandre sur son Église, sur le peuple de ses rachetés. L'Esprit Saint, dont saint Augustin nous dit qu'il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Parce que Dieu est amour, il porte en lui-même, dans sa manière d'être, hein, cette réalité de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, pour lire les versets 20 à 25. Jean, chapitre 17, les versets 20 à 25. Le chapitre 17 de l'Évangile de Jean est appelé la prière sacerdotale. Juste avant de s'offrir en sacrifice, le Seigneur donc a intercédé auprès du Père. Et il a intercédé d'une manière très particulière pour son Église, pour ceux que le Père lui a donnés. Donc au chapitre 17, verset 20, nous lisons ceci. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, il vient de prier pour ses disciples en tant que tels, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, donc tout le reste de l'Église, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelle prière! Qu'ils soient un comme nous sommes un. Il faut faire bien attention ici. Alors, bien sûr, il y a l'unité par excellence. Elle est en Dieu. Le grand mystère de la Trinité, un seul Dieu, une seule nature, une seule essence, mais trois personnes. C'est impossible à saisir et à comprendre. C'est tout simplement, nous recevons cela par la foi comme la chose la plus merveilleuse qui soit. Parce que c'est ainsi qu'on peut comprendre que Dieu, justement, est la source de toute unité. Parce qu'il est l'unité par excellence. Tout en existant, il est l'unité, mais en lui-même, il y a un nombre. Alors, c'est impossible à comprendre, parce que pour nous, 1 plus 1 plus 1 égale nécessairement 3. Mais en Dieu, il y en a 3, mais il n'est qu'un. Mais en ce faisant, Dieu devient justement la source de toute unité en ce monde, et d'une manière plus particulière, de l'unité de son peuple. Et quand le Seigneur dit, bien sûr, qu'il soit un comme nous sommes un, il ne veut pas dire que nous pouvons être un exactement de la même manière que Dieu est un, parce que nous demeurons toujours, bien sûr, des individus à part entière. Mais on parle ici d'une analogie, de quelque chose de semblable. Mais ça veut donc dire que la volonté de notre Dieu, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ en venant donner sa vie pour nous, et cette volonté, il l'a exprimée dans cette prière juste avant de s'offrir en sacrifice. Il s'approchait de la croix, il savait qu'il allait souffrir de façon tellement cruelle. On sait qu'il a dû intercéder auprès du Père afin qu'il le fortifie pour qu'il puisse demeurer ferme dans la volonté de ce dernier et accomplir l'œuvre pour laquelle il avait paru. Le Seigneur de dire, « Père, je te prie afin qu'il soit un. » Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. C'est la volonté de notre Dieu, c'est la volonté de notre Sauveur et c'est la volonté du Saint-Esprit qui nous habite. Maintenant, la comparaison dont se sert David ici, celle de l'huile qui descend, donc de l'huile de consécration qui descendait sur la tête d'Aaron, justement nous parle du caractère extrêmement précieux aux yeux de Dieu de son peuple, mais aussi de son caractère éminemment saint. C'est une chose sainte que l'unité du peuple de Dieu, et elle est rendue possible lorsque le Saint-Esprit agit puissamment en nous. Mais cette unité, elle nous est présentée comme une véritable onction qui vient de Dieu seul, que Dieu seul peut produire en nous. Et rappelons-nous que, de même que cette onction, n'est-ce pas, ce parfum qui était préparé ne pouvait servir à aucun usage profane, même que si on s'en servait de cette manière-là, on était passible de mort. De même, nous devons prendre soin de bien comprendre en quoi consiste l'unité, donc, du peuple de Dieu. Parce qu'il existe effectivement des contrefaçons de l'unité du peuple de Dieu, alors que celle-ci peut être produite seulement par Christ ressuscité en nous, par son Saint-Esprit. Seuls les élus de Dieu peuvent l'expérimenter. Malheureusement, on a trop souvent une idée extrêmement vague, nébuleuse de l'unité du peuple de Dieu. On confond cette unité avec l'esprit de camaraderie, l'amitié, la socialisation, le fait de faire front commun pour une cause, de s'assembler pour une activité quelconque, de s'unir maintenant pour chanter, etc. Mais bien sûr que ces choses peuvent faire partie de l'unité du peuple de Dieu, de l'Église, mais c'est tellement plus grand que cela. L'unité dont nous parlons ici, c'est l'unité de l'Esprit. C'est son œuvre souveraine qu'il opère dans les cœurs de ceux que le Père a choisis de toute éternité et qu'il a appelés de façon irrésistible. Seuls de tels individus peuvent expérimenter cette unité. Je l'ai déjà dit, elle n'a pas à être recherchée dans le sens que nous devons la créer, mais plutôt la préserver comme une grâce excellente et un don parfait descendu d'en haut. Elle n'est pas mécanique, elle n'est pas artificielle, elle ne peut être produite extérieurement par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, comme par exemple la présence d'un ministre ou d'une ordonnance, qui peuvent, bien sûr, servir hein, à l'unité, mais l'unité n'est pas automatique parce qu'il y a un ministre, un pasteur, parce qu'on se sert des ordonnances que Dieu nous a données, etc., etc. C'est plus que ça, l'unité. Elle n'est pas mécanique. Elle ne consiste pas en l'amalgame ou la coalition d'éléments disparates rassemblés dans un but quelconque, mais c'est bien plutôt une réalité organique, vivante, indivisible. Il s'agit donc de la réalité d'un corps composé de plusieurs membres qui, il est vrai, chacun en soi est unique, mais qui ont été recréés en Christ, hein, et qui désormais demeurent inséparables les uns des autres. C'est la réalité à laquelle je suis condamné d'être un avec le reste de l'Église. C'est la réalité à laquelle chacun d'entre nous sommes condamnés, heureusement. Malgré nos défaillances présentes, nos manquements, nos incompréhensions, nos duretés de cœur, nous sommes tous condamnés à l'unité de l'Église parce que nous allons la vivre dans l'éternité future. Mais nous sommes appelés déjà à l'expérimenter le plus possible et chercher à la préserver le plus possible. Nous devons la manifester de façon visible. Cependant, nous devons nous rappeler que c'est une réalité qui, premièrement, prend place dans nos cœurs et qui est cachée au sens physique. Comme la paix de Dieu, elle va se manifester d'une certaine manière extérieurement, mais c'est quelque chose que nous gardons en nous-mêmes, que nous expérimentons au plus profond de nos âmes. Hein? C'est donc une unité de nature spirituelle qui n'est perceptible que par la foi seule. Le monde ne la connaît point comme le monde ne connaît point la paix de Christ. Et tout autre soi-disant unité au sein de ce qui porte le nom d'Église consiste en une falsification de celle-ci. Hein, et loin d'être d'une agréable odeur à notre Dieu, la fausse unité dégage au contraire devant sa face la puanteur pestilentielle d'un corps en décomposition. Notre unité est en Christ, avec ceux et celles qui lui appartiennent, qui marchent dans la vérité. Rappelons-nous le roi de Juda, qui fut sérieusement repris, n'est-ce pas, par le prophète pour s'être uni avec Achab, hein, le roi d'Israël, mais qui était un impie. Le Seigneur de lui dire, « Doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? » On ne peut pas être en communion avec ceux qui renversent l'Évangile par leur doctrine ou leur agissement. Paul et Barnabas ont combattu Antioche les judaïsants qui se prétendaient chrétiens mais qui prêchaient un salut par les œuvres. Hein? Et ces derniers donc furent réprouvés aussi par les apôtres et les anciens de l'Église de Jérusalem. Paul ordonna avec autorité que l'incestueux à Corinthe soit excommunié sur le champ. Et le Seigneur ressuscité de s'adresser donc à l'Église d'Éphèse et de la louer parce qu'il nous est dit qu'ils avaient éprouvé ceux qui se prétendaient apôtres et avaient reconnu la fausseté donc de cela et qu'aussi ils avaient de la haine pour les Nicolaïtes. On pense que c'était une espèce de gnostique, non, notamment qui rejetaient la loi de Dieu. Une fois qu'on a dit cela, nous devons comprendre qu'il y a aussi une véritable Église imparfaite. Nous sommes appelés donc à nous endurer littéralement les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, à cheminer ensemble malgré nos faiblesses, nos manquements, etc. Et dans l'épître de Paul aux Philippiens, il nous est dit au chapitre 1, versets 27 à 30, « Belle église que l'église de Philippe qui vivait une relation très particulière avec l'apôtre. » Et c'est une église donc qui rayonnait pour l'Évangile, mais Paul, d'après ce qu'il avait appris, hein, ressentait qu'il commençait à y avoir quelques petites failles dans l'unité de cette église. Ça ne prend pas grand-chose. Ça commence parfois par des petites failles, mais qui s'agrandissent. Si on ne prend pas le temps, bien sûr, de les réparer, elles risquent de s'agrandir. Ça devient des fissures. Et à un moment donné, il se pourrait que le bâtiment ne serve plus à rien. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. » Alors voici de quoi il s'agit lorsque Paul, dans le contexte des Philippiens, là, se conduire d'une manière digne de l'Évangile, c'était premièrement de demeurer ferme dans un même esprit. Mais c'est l'esprit de la vérité, bien sûr, l'esprit en combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Il s'agit d'une unité, frères et sœurs, dans la sainteté du royaume, dont l'éthique révélée dans le Nouveau Testament est infiniment plus élevée que tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Plus élevée que celle de l'Ancienne Alliance, et bien sûr tellement différente de celle qu'on voit dans ce monde. Mais de par notre passé, hein, on amène avec nous tout un bagage familial, culturel, religieux même. Et il nous arrive trop souvent, justement, de confondre cela avec la vérité de l'Évangile et l'éthique de l'Évangile. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. L'apôtre Paul ne cesse de dire aux Corinthiens que la chose la plus précieuse qui soit au sein de l'Église, c'est l'amour de Dieu. Il nous dit, l'amour ne périt. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et un peu plus loin, au verset 8 du chapitre 13, il nous dit « L'amour ne périt jamais. » Un peu plus loin, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'amour, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, le lien de la perfection, c'est le plus noble, le plus solide des matériaux avec lesquels nous pouvons bâtir notre vie spirituelle et l'Église de Dieu. Paul de dire que même si je parlais les langues des anges, même si je possédais toute la connaissance, sans l'amour, je suis un airain qui résonne, je ne suis rien. La vérité de l'Évangile va de pair avec l'amour de Christ dans nos cœurs, avec la manifestation, l'expérience de l'amour de Christ dans nos vies. Troisième point, verset 3, la fertilité que produit l'unité du peuple de Dieu. Il nous dit, David, que cette unité que nous devons rechercher, aimer, apprécier, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Paul emploie donc une deuxième image. La première, c'est celle du souverain prêtre sur lequel on répandait l'huile d'onction, n'est-ce pas, hein, qui dégageait une odeur tellement merveilleuse autour de lui. Maintenant, c'est celle de la rosée de l'Hermon et des montagnes de Sion. Les commentateurs bibliques divergent sur la manière d'interpréter donc ce dernier verset, mais je pense qu'on peut arriver à l'idée celle-ci. Premièrement, la montagne de l'Hermon désigne une haute montagne du nord du territoire de la Terre promise, beaucoup plus haut, donc dans le nord de la Terre promise, et cette montagne était connue pour sa fertilité, pour ses verts pâturages, en raison notamment de l'abondante rosée qui se déposait sur elle, et qui je suppose se dépose encore sur elle aujourd'hui, tous les matins. Hein? La question qu'on s'est posée maintenant, que veut dire qui descend sur les montagnes de Sion? Certains ont pensé que l'Hermon était une montagne proche de la montagne de Sion et que l'eau qui venait sur la rosée, qui venait sur la montagne de l'Hermon, finissait par arroser la montagne de Sion. Mais c'est très, très peu probable. Je pense que tout ce que David veut nous dire ceci, c'est que quand le peuple de Dieu est uni dans la vérité, dans la grâce et dans l'amour, il expérimente une rosée semblable à celle de l'Hermon. Quand la montagne de Sion, le peuple de Dieu, est uni comme il se doit, il expérimente une telle rosée, une telle grâce de Dieu, qui bien sûr amène de bonnes récoltes, la fertilité, la prospérité donc du peuple du Seigneur. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où il y a une réelle unité de l'esprit, où le corps de Christ vit dans les liens de l'amour, pas l'amour selon l'homme, pas la romance, mais le véritable amour que dépose en nous le Saint-Esprit, là, le Dieu de l'Alliance envoie la bénédiction, la vie éternelle, la vie véritable et incorruptible. Ainsi, quoi qu'on en dise, quoi que l'on puisse prétendre, là où des frères et des sœurs en la foi n'habitent pas, ensemble, c'est-à-dire n'expérimentent pas cette unité de cœur, de pensée, d'esprit dans l'amour de Christ, là où il n'y a pas une sainte entente, une sainte harmonie, là ne peut être déversée la généreuse ondée de la bénédiction d'en haut, là ne peut être expérimentée la vie véritable qui est la vie éternelle. Car la vie éternelle, frères et sœurs, ce n'est pas seulement une question de durée, c'est avant tout une qualité de vie, c'est la vie de Dieu qui est un amour, grâce, et miséricorde, et qui, de pécheurs que nous sommes, nous a appelés à lui pour désormais que l'on puisse justement expérimenter cela, pour déverser cette vie nouvelle en nous, afin qu'on puisse expérimenter la bénédiction que cela va nous donner. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Cette parole, Seigneur, si gracieuse, si puissante. Cette parole, Seigneur, qui nous transcende, que nous ne pouvons comprendre ni saisir que par l'aide de ton Esprit Saint, car elle emploie un langage spirituel. Et seuls ceux qui ont été ramenés à la vie spirituellement et sont habités par ton Esprit Saint peuvent commencer à en saisir quelques vérités. Mais nous devons reconnaître, notre Dieu, que même nous qui te connaissons, nous qui sommes nés d'en haut, à quel point, Seigneur, nos oreilles ont encore de la difficulté à entendre. À quel point nos yeux, Seigneur, demeurent myopes à bien des grandes vérités, des grandes réalités de ta parole. À quel point, Seigneur, nos âmes sont d'une grande faiblesse. Seigneur, nous te prions de venir à notre secours. Nous te prions, Seigneur, de déverser ta grâce dans nos cœurs, de faire la lumière. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous accordes une plus grande humilité, une plus grande faim et soif de mieux te connaître, de mieux te servir et de ce désir, notre Dieu, d'être transformé à l'image de ton Fils, qui est le modèle par excellence pour nous d'amour, de grâce, de service. À quel point, Seigneur, nous sommes tellement loin, notre Dieu, d'avoir atteint une telle maturité, une telle stature. Mais nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu as décrété de toute éternité de nous transformer à l'image de ton Fils. Tu as décrété, notre Dieu, notre Père, de nous appeler à toi, de nous racheter de nos péchés par ton bien-aimé, et Seigneur, de faire de nous une nouvelle création, une nouvelle humanité, dans laquelle tu allais déverser, Seigneur, ta gloire. Notre Dieu, notre Père, malgré nos faiblesses présentes, malgré nos imperfections, le fait que le péché nous habite encore, nous voulons te prier, notre Dieu, afin que nous puissions un peu plus expérimenter, Seigneur, cette réalité de l'unité de ton peuple, reconnaissant nos difficultés, Seigneur, même notre incapacité en nous-mêmes, et à quel point, Seigneur, nous nous laissons séduire par l'ennemi, par nos passions intérieures. Nous sommes éblouis par celle-ci, notre Dieu, et nous confondons le zèle amer avec le véritable zèle de l'Évangile de paix. Donne-nous le discernement. Révèle-toi à nous, Seigneur. Car en fait, comment pouvons-nous reconnaître le faux du vrai, sinon qu'en connaissant premièrement le vrai? Et en te connaissant, Seigneur, toi qui es la vie éternelle, nous apprenons ce qu'est réellement l'amour. Toi qui t'es révélé et manifestant la personne de ton Fils bien-aimé. Lui qui a révélé, Seigneur, de la façon la plus éblouissante qui soit, ce que signifie ton amour. Notre Dieu, notre Père, nous nous présentons à toi ce matin, nos cœurs crient à toi, et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, c'est là ta volonté à notre égard. Nous prions, Seigneur, je prie pour cette Église, pour l'Église de Québec, pour les autres Églises de notre association, que tu puisses nous visiter, notre Dieu, que tu puisses, notre Dieu, continuer ton œuvre en nous, que tu puisses nous donner de préserver cette unité précieuse dans la vérité et de croître dans celle-ci, notre Père, afin que tu puisses envoyer encore plus ta bénédiction, afin que nous puissions expérimenter la vie éternelle. et que nous puissions ainsi marcher dans tes voies comme il se doit, et voir notre espérance croître, notre Dieu, voir notre assurance, posséder encore une plus grande assurance en toi, afin de pouvoir cheminer dans la joie malgré les épreuves présentes, cheminer, Seigneur, sur le chemin que tu as préparé d'avance pour nous de toute éternité. Nous te prions toutes ces choses au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.